16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Le jour où c'est arrivé, j'avais promis à Stéphane que jamais, quoi qu'il arrive, je ne diffuserai la séquence où, hors antenne, et alors qu'il avait visiblement forcé sur le gin tonic, il nous avait imité Dominique Besnéard.
Tout de suite, c'est Europe Soir avec Julien Bugier.
Seulement voilà, on n'est jamais trahi que par les siens. Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Mathieu.
Ah bah c'est votre vraie voix là.
Bonjour à tous. Mais vous savez, on imite que ceux qu'on aime.
C'est vrai. Hein. Qui aime bien châtie bien.
Exactement. Et oui. On n'est jamais mieux trahi que par les siens. C'est un vieux dicton. Mais c'est aussi le thème de notre émission cet après-midi. Nos trois personnages du jour l'ont constaté à leurs dépens. Lui s'est battu contre César et il a perdu. Mais faut dire qu'il n'a pas vraiment été soutenu, voire même trahi par son armée. Je vous raconte le destin d'un connu mal connu de l'histoire, Vercingétorix. Puis, plus proche de nous, mais encore un peu plus loin quand même, la reine Marie Stuart trahit elle aussi, vous savez, la reine d'Écosse. Pas n'importe qui l'a trahi, c'est sa cousine, la reine Elisabeth Ière d'Angleterre.
C'est moche.
Et de votre côté, Mathieu, vous reviendrez sur une trahison plus récente, presque contemporaine.
Oui, trop c'est trop, c'est à un homme trahi de toutes parts que je m'intéresse aujourd'hui, un Donald Trump trahi il y a quelques jours par le réseau social Twitter, sa plateforme préférée, la couche confiance de sa logorée avec pas moins de 57 160 tweets au compteur, où il a pu s'exprimer en toute impunité. Terminé, fermé, banni, trahi aussi Donald par Marie Trump, la nièce du futur ex-président qui n'a pas retenu ses coups. Elle a dit tout le mal qu'elle pensait de son oncle Donald dans un livre choc. Et comme dirait Clémentine Portier-Kaltenbach lorsque vous la battez dans le quiz...
Ça fait mal.
Ça fait très mal, vous verrez.
Et oui, justement, avec nous comme chaque jour, elle nous entraîne dans les coulisses de l'histoire... C'est Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour messieurs, et vous savez, ce à quoi me fait penser votre thématique à cette phrase d'André Bazin qui disait « Où est-on mieux que dans sa famille ?» Partout ailleurs, hein. C'est vraiment une vérité expérimentée.
Officiellement, Olivier Pouls n'a pas lu Vipère au point, il est complètement paumé.
Non, ça vous dit rien ça Olivier ? Où est-on mieux que dans sa famille ?
Folcoche.
Partout ailleurs.
Moi, je suis bien dans ma famille.
Ah bon, si votre vie familiale est un long fleuve tranquille, je pense que vous n'avez rien à faire.
Qui avait dit une famille unie ? Oh, elle n'a pas hérité.
Oui, bien sûr, c'est ça. Oui, bien sûr, bien sûr.
Oui, c'est vrai que nous vivons modestement.
Non, mais dès qu'il y a des cuillères à partager...
Effectivement, des cuillères en argent. Clément,
alors,
quel est votre thème aujourd'hui ?
Mon thème aujourd'hui, je vais vous parler de Danton, mais non pas le tribun révolutionnaire, l'homme politique dont Stéphane nous avait déjà dressé un portrait il y a quelque temps. Mais sachez que dans sa vie privée aussi, bien sûr, Danton fut un audacieux. Il eut un très grand amour en la personne de Gabrielle Charpentier, mais il l'a trahi. Il la trompa abondamment et lui-même fut trahi par son grand ami Robespierre, hein, qui lui faisait d'immenses déclarations d'amitié puis l'envoya à la guillotine.
Elle, Clémentine, ne nous a jamais trahi, c'est la bière. Et pour parler d'une bière particulière, oui, il faut bien trouver des transitions, c'est David Castello-Lopez qui chaque jour remonte aux origines d'une invention, d'un objet du quotidien, aujourd'hui donc.
Tout à fait, c'est une bière un peu particulière qui est la bière des hipsters par excellence, qu'on appelle l'IPA.
Je ne connais pas, je ne suis pas hipster.
C'est vrai, personne ici ne connaît l'IPA.
Si, bien sûr, c'est une bière qui est très amère.
Très amère, très houblonnée, et c'est devenu la bière la plus
dégueulasse. Très dégueulasse, on peut le dire.
Mais non.
Non, on
est bien. Et puis, Mathieu, il faut dire aussi qu'on n'est jamais trahi par les bonnes vieilles recettes de nos grands-mères. Et ça, avec
Olivier Pouls. Et surtout, par le plus fidèle d'entre tous, le petit salé aux lentilles.
Bah oui, il ne vous trahira jamais. Il sera fidèle toujours. Pour vous régaler.
Mais d'où vient-il ?
Bah oui, et puis surtout, comment le prépare-t-on ?
C'est pas trop compliqué ?
Non, c'est pas très compliqué.
C'est même assez simple,
je
pense.
Vous devriez y arriver.
Enfin, vous savez quoi, Stéphane ? Je pense que c'est une belle journée pour faire quelque chose de spécial. Le lundi, c'est le jour ou jamais pour tenter quelque chose de beau.
Pour se marier entre cousins germains.
Non, Stéphane, non ! Pour essayer de battre Clémentine dans le quiz. Burn to be alive, ce sera aux alentours de 5h-10. Mais pour l'heure, découvrons notre première trahison de l'histoire. Stéphane Bern nous raconte le destin d'un loser aujourd'hui élevé au rang de héros et qui n'avait même pas de moustache. Vercingétorix.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Comme Stéphane, quand on attaque la reine d'Angleterre, Vercingétorix s'était exclamé lorsque Jules César avait attaqué la Gaule.
Touche pas !
Hélas, sa détermination n'a pas suffi, Stéphane nous raconte Vercingétorix.
On l'a découvert au 19e siècle. Lui, le chef gaulois vainqueur des légions romaines à Gergovie et vaincu à Alésia par l'impérator Jules César, qui, comme chacun sait, n'était pas empereur. Vercingétorix est devenu le premier résistant français face à l'envahisseur romain. Pourtant, il n'a eu de cesse, pendant sa courte carrière militaire, de tout faire pour unir une grande partie des peuples qui composaient la Gaule au 1er siècle avant Jésus-Christ, au risque d'être trahi par ses alliés tant courtisés. Vercingétorix était chef des Arvernes, pas des Gaulois. Un vrai problème pour se faire respecter. Pour commencer, oubliez tout ce que vous avez appris sur Vercingétorix.
Tout
Mathieu.
Ce que j'ai appris sur Vercingétorix, c'est dans Astérix. Donc j'espère Goscinny n'a pas dit de conneries.
Oubliez tout.
Ah bon.
Il y a de grandes chances pour que tout soit faux. Déjà, son apparence. Il est souvent représenté comme un homme arborant fièrement une cuirasse de cuivre, une lourde épée en bronze, un casque à ailettes. Il n'en est rien. Quant à son imposante moustache, eh bien, désolé de vous décevoir. C'est une pure invention romantique.
Pas la moustache, Stéphane.
Si. Vercingétorix, né aux alentours de -80, est un gaillard au nez proéminent, volontaire, aux yeux perçants et au menton en retrait. Il aurait grandi chez les Arvernes, en Gaule transalpine, par opposition à la Gaule cisalpine, l'Italie du Nord actuelle. La population arverne est riche, elle maîtrise l'élevage, l'agriculture, et elle est protégée par la barrière naturelle du massif central. Historiquement, les Arvernes sont reconnus pour leur qualité militaire de commandement. À l'inverse, parmi les 60 peuples qui composent la Gaule, les Éduins se distinguent par leur supériorité commerciale. Et pour cause, ils ont prêté allégeance à Rome et entretiennent avec la République romaine des liens privilégiés. Vercingétorix, lui, ne supporte pas l'idée de devoir obéir à une autre autorité que celle d'un Arverne. Alors, quand Jules César se lance en -58 dans sa guerre des Gaules, pour notamment piller les Gaulois de leurs richesses, Vercingétorix, du haut de ses 20 ans, ne peut s'y résoudre. Entre la Gaule et la République de Rome, le torchon brûle. Durant l'hiver, -53, -52, c'est pas les...
C'est les années.
Les événements se précipitent. Jules César, qui avait réussi à soumettre une grande partie de la Gaule, doit revenir pour éteindre de nouvelles révoltes. Certains peuples refusent de payer des impôts supplémentaires à la République romaine. Parmi eux, les Arvernes et leur chef, Vercingétorix. Certains disent que son aisance à parler, très prisée chez les Gaulois qui ne savent pas écrire, il faut savoir que le savoir, justement, se transmet par les druides, donc à l'oral, lui permet de s'ériger chef de la révolte. De plus, la guerre lui est tout sauf étrangère. Les sources semblent indiquer que quelques années auparavant, le jeune Arverne aurait été l'un des contubernales, compagnons de tente, voilà, de César, voire même le commandant du corps des cavaliers Arverne. Vercingétorix aurait donc été formé aux méthodes de guerre romaines avant de s'ériger ennemi numéro un du proconsul Jules César. Au printemps -52, Vercingétorix et ses troupes s'illustrent dans un conflit qui est depuis devenu incontournable dans les livres d'histoire, la bataille de Gergovie. Les hommes de Vercingétorix, positionnés sur le plateau de Gergovie, parviennent à repousser les 6 légions romaines, environ 36 000 hommes. C'est la première défaite militaire de Jules César en Gaule. Vercingétorix devient quant à lui officiellement chef suprême des peuples gaulois. Une prouesse car il parvient à obtenir une union, fragile certes, mais une union tout de même, entre les peuples gaulois pourtant réputés hostiles les uns envers les autres. Quelques semaines plus tard, les légions romaines marchent du plateau de Langres, qui correspondrait à la Côte d'Or actuelle, vers le sud. Vercingétorix s'apprête à lancer une attaque qu'il espère meurtrière et peut-être finale à la guerre qu'il oppose à César. Le chef gaulois a pour projet, aidé de ses nouveaux alliés, les cavaliers Éduins, de surprendre les légions romaines. À pied, les légionnaires seraient au cœur d'un guet-apens. D'après les projections de Vercingétorix, les Éduins transperceraient les rangs ennemis pendant que les soldats gaulois s'abattraient soudainement sur leurs adversaires, déjà fortement diminués par l'assaut des cavaliers. Mais rien ne se passe comme prévu. Contre toute attente, les Romains résistent vaillamment. Tel un bloc infranchissable et soutenu par leurs renforts germains, ils repoussent les différents assauts et forcent les troupes de Vercingétorix à se replier. Après sa victoire à Gergovie, c'est un échec pour le chef gaulois. Un partout, la balle au centre. Mais un détail l'interpelle. Les troupes de César semblaient presque trop bien préparées à cette attaque pourtant surprise. Ça ne l'étonnerait pas que des espions se cachent dans son armée et renseignent très discrètement le dictateur romain. Pour le moment, le chef gaulois doit mettre ses hommes à l'abri. Direction l'oppidum d'Alésia. La guerre des Gaules dure déjà depuis 7 ans. Alors, Jules César, comme ses légionnaires, n'ont qu'une hâte, retrouver l'Italie, son vin, son huile d'olive et les Italiennes. Les Gaulois n'ont eux aussi pas de temps à perdre. Ils doivent à la hâte fortifier la ville d'Alésia et être prêts à attaquer les légions romaines. Fin stratège, Vercingétorix a appliqué la politique de la terre brûlée. Ses troupes ont consciencieusement incendié tous les champs, toutes les réserves de vivres dans la région. Son objectif ? Que les légions de César se trouvent fort dépourvues quand le siège sera venu. Mais c'est sans compter sur les précieuses informations qu'a pu recueillir le consul romain. Lors du dernier affrontement, César a capturé 3 grands chefs éduains, ce peuple sous domination romaine depuis des dizaines d'années. Ils ont pu l'avertir des intentions de Vercingétorix, attendre patiemment que des renforts armés arrivent et que tous les Gaulois nouvellement unifiés terrassent la petite armée romaine. Peut-être à la lumière de ces renseignements et parce qu'il est le chef militaire le plus capé de cette époque, Jules César entreprend d'assiéger les Gaulois à Alésia. Ses hommes construisent une double fortification empêchant toute entrée et sortie de la ville. Le siège commence et va durer environ 6 semaines. Plus les jours avancent, plus les Gaulois voient leur vivre diminuer. Le moral baisse autant que la faim grandit. Entre-temps, en pleine nuit, des milliers de cavaliers gaulois parviennent à s'échapper d'Alésia. Ils ont pour mission de revenir avec un maximum de soldats recrutés un peu partout sur le territoire. Mais lever une armée en si peu de temps, auprès de peuples aussi différents et parfois ennemis, n'est pas une chose aisée. Se tient alors un conseil regroupant les principaux chefs des cités gauloises. Certains acceptent, d'autres se montrent beaucoup plus réticents. Et si ça revenait à se jeter dans la gueule du loup ? L'armée de Vercingétorix a-t-elle vraiment des chances de l'emporter ? Parmi les plus réfractaires, on retrouve les Éduains. Pourtant, au bout de 5 semaines, les cavaliers missionnés par le chef gaulois reviennent avec près de 250 000 hommes. Mais c'est trop tard. Les troupes gauloises ont essuyé plusieurs revers et sont épuisées. Pire, alors qu'ils auraient pu tenter une ultime bataille, certains soldats à peine installés à Alésia préfèrent prendre la fuite. Vercingétorix n'a plus le choix. Face à la supériorité militaire de César et les défections dans sa propre armée, le chef gaulois se rend au dictateur. Il sera pendant 5 ans son trophée de guerre, emprisonné à la prison de Rome, puis assassiné à l'issue d'un ultime triomphe.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Vercingétorix, nous sommes avec l'archéologue et historien Laurent Olivier. Bonjour Laurent Olivier.
Bonjour.
Laurent Olivier, bonjour. Vous avez écrit César contre Vercingétorix, un livre dont on connaît la fin, publié chez Belin. On connaît la fin, mais on connaît moins le début, finalement. César et Vercingétorix sont deux ennemis que tout oppose. Mais au départ, c'était pas le cas. Avant de se livrer une guerre totale, ils étaient proches, on peut dire qu'ils étaient amis, ils ont partagé la tente.
Alors ça, c'est un scoop que nous donne l'historien romain Dion Cassius, parce que 300 ans après la conquête de la Gaule, qui nous dit que César et Vercingétorix étaient amis, et que c'est la raison pour laquelle Vercingétorix s'est rendu en personne devant César à Alésia. En fait, c'est une question géopolitique tout ça, parce que quand les Romains conquièrent le midi de la Gaule, en fait, le peuple arverne est allié de ces peuples gaulois, et Rome leur met le marché en main, dit « maintenant ». Nos alliés, c'est nous. Et donc, vous allez nous prêter allégeance, vous allez changer votre régime, vous aurez un Sénat élu et nous contrôlerons les élections, évidemment. Et quand cet ordre-là nouveau est mis en place, le père de Vercingétorix, qui s'appelle Celtios, se révolte contre l'autorité romaine et veut rétablir, en fait, l'ancienne monarchie. Et son fils, c'est Vercingétorix. Et quand César arrive en Gaule, on va voir l'oncle de Vercingétorix qui a le pouvoir et on pratique ce qu'on appelle la politique des otages. C'est-à-dire, ok, nous sommes alliés, hein, vous ne tenterez rien contre nous. Et donc, pour preuve de votre bonne foi, vous allez vous donner votre héritier, votre neveu, Vercingétorix. Donc, on pense que dans les premières années de la guerre des Gaules, qui dure quand même 7 ans, Vercingétorix est effectivement intégré auprès de César et au plus près de lui. Parce que c'est un personnage dangereux. César dit qu'il est adolescent, c'est-à-dire qu'il a entre 20 et 30 ans au moment de la guerre des Gaules. Et en fait, il n'a pas encore exercé les charges politiques. Mais il pourrait le faire. Et donc, il est donc très important que César l'est auprès de lui. Et donc, c'est probablement cela qui explique cette, plus que cette proximité, en fait, cette familiarité pour les deux hommes.
Cette intimité, pratiquement, mais, oui.
Oui. En plus, ce qui est intéressant, c'est le rapport entre les deux personnages, parce qu'il y a une différence d'âge. César a une 50aine d'années, commence déjà à être un peu vieillissant et Vercingétorix aurait l'âge d'être son fils. Il a peut-être 20-25 ans. Donc il y a un rapport, on le sent au travers du récit de la guerre des Gaules, il y a un rapport d'admiration de César pour ce petit Gaulois qui semble réussir mieux que lui.
Moi, je vous l'avoue, cet après-midi, Laurent Lee, je tombe un peu dému parce que dans les livres d'histoire, en tout cas à mon époque, qui n'est pourtant pas si lointaine, j'avais l'impression qu'on opposait Vercingétorix et César. On avait l'impression que la défaite de Vercingétorix était liée au fait que c'était presque des hommes de temps différents qui s'affrontaient, c'est-à-dire la modernité romaine, l'organisation de l'armée par rapport à des tribus gauloises désorganisées. En fait, d'après le récit de Stéphane, ce que vous dites là, c'est qu'il y avait une intrication. En fait, ils s'inspiraient l'un de l'autre. Vercingétorix aurait même pu s'inspirer de la stratégie de César. Il la connaissait, en fait. C'était pas un martien pour lui, c'était des gens qui vivaient en fait dans la même temporalité.
Alors quand vous regardez le déroulement de la guerre des Gaules, tel qu'il est relaté par César, vous voyez, ça a été souligné tout à l'heure, hein, vous l'avez dit Stéphane, dans les premières années, César est victorieux. Et à partir du moment où il a affaire à Vercingétorix, le rapport s'inverse. Et Vercingétorix a compris qu'il est dans une guerre, on dirait aujourd'hui asymétrique, c'est-à-dire il n'a pas en particulier la puissance de l'artillerie et la puissance d'entraînement de l'armée romaine. Et donc, pour vaincre les Romains, il faut surtout ne pas les combattre, il faut les affamer, il faut les laisser s'épuiser pour frapper un coup puissant quand ils seront à terre. Et en fait, c'est ça le génie militaire de Vercingétorix, c'est d'avoir compris qu'en fait, dans ce combat, c'était inégal. Il n'avait pas l'avantage stratégique et tactique. Et donc, il fallait utiliser ça au contraire pour mener une guerre de guérilla.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
On n'est jamais trahi que par les siens. Aujourd'hui, on parle de ces personnages qui ont été trahis par leurs proches. En parlant d'abord de Vercingétorix avec notre invité Laurent Olivier. Alors Stéphane l'a dit, Laurent, son nom Vercingétorix dit quelque chose à tout le monde en France, grâce à Astérix notamment. Mais en réalité, sa biographie est assez peu connue. Certains sont même allés jusqu'à douter de son existence. Comment on explique que ça ne soit pas plus sourcé, Vercingétorix ?
Parce qu'en fait, le seul témoin de cette histoire, c'est César. C'est lui qui nous donne la seule version contemporaine des faits. Et effectivement, le nom de Vercingétorix en gaulois, ça veut dire le chef suprême des combattants. Et donc, on s'est demandé, Michelet se demandait, par exemple, si c'était pas juste un titre honorifique. Ouais. Et puis, au milieu du 19e siècle, dans un tout petit village d'Auvergne, qui s'appelle Pionça, on a trouvé un trésor monétaire avec des monnaies frappées à l'effigie de Vercingétorix. Et là, d'un seul coup, la réalité historique du personnage a éclaté au grand jour. Et Vercingétorix non seulement avait bien existé, mais il avait frappé des monnaies dans son pays, le pays Arverne.
En fait, on imagine toujours Vercingétorix avec les Gaulois. Mais en réalité, ce que je tentais de rappeler, ça n'existait pas. D'abord, le mot Gaulois, c'est un mot qui est donné par les Romains. Eux étaient les Arvernes, les Éduins, les... En fait, il n'y avait pas d'unité des Gaulois.
Ce qu'il faut comprendre, c'est plusieurs choses. C'est que, en fait, effectivement, pour un Gaulois, sa patrie, c'est sa cité. On est Arverne, on est Éduin, on est Carnute, on est Atrébate, etc. avant d'être Gaulois. Et l'idée de Gaulois, c'est une vision de l'extérieur. C'est-à-dire, c'est comme on pourrait dire, nous, les Américains ou les Chinois, pour englober tous les Asiatiques. En réalité, c'est pas ainsi qu'ils se considèrent. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces États ont une politique extérieure, ont une diplomatie qui leur est particulière, dans laquelle ils peuvent s'unir, dans laquelle ils peuvent se faire la guerre. Et en fait, ces alliances sont extrêmement mouvantes. Et César va tirer parti de cette instabilité.
Vercingétorix, c'est le malheureux perdant de cette ultime bataille. Je n'ai pas raconté toute la bataille d'Alésia, évidemment, mais il était à deux doigts, disais-je, de vaincre Jules César, alors qu'il a été trahi par ses propres alliés, c'est-à-dire les Éduins, qui étaient coincés, vous l'avez dit vous-même, entre leur loyauté envers les autres Gaulois, qui étaient les Arvernes, et puis leur alliance avec les Romains.
Là encore, c'est une question de géopolitique de l'Antiquité. Quand les Romains s'emparent du milieu de la Gaule, et au début, César, il est gouverneur de la province de Narbonnaise. En fait, il s'empare d'une espèce d'autoroute économique qui est la vallée du Rhône, qui remonte vers la Bourgogne, qui ensuite dessert la Germanie, qui peut aller jusque dans les îles britanniques. C'est un couloir économique très important. Ceux qui se trouvent à la plaque tournante, au débouché du couloir rhodanien, ce sont les Éduins. Et en fait, les Romains jouent les Éduins contre les Arvernes, ancienne puissance marginalisée. Et en fait, les Éduins sont pris entre deux feux. Quel camp choisir ? Ils sont même divisés à l'intérieur de leur propre camp. Faut-il choisir les Romains ou faut-il choisir les Gaulois ? Et quand Vercingétorix réunit presque tous les peuples de la Gaule, les Éduins se disent que le vent a tourné et qu'il serait peut-être plus intelligent de se tourner vers la rébellion. Donc ils sont indécis, en fait.
Mais c'est pas loin de ce que disait Mathieu, c'est-à-dire que les Éduins sont des commerçants. Et donc, des échanges, on le voit avec les pièces de monnaie, où ils, d'ailleurs, ils ont des monnaies proches des pièces romaines, alors que les Arvernes restent des paysans, des éleveurs, des agriculteurs. Donc, il y a aussi deux mondes qui s'affrontent.
Je crois pas que c'est aussi tranché que ça. En fait, les Arvernes sont une ancienne puissance dominante de la Gaule. Ils avaient ce qu'on appelle l'hégémonie, c'est-à-dire, par un système d'alliance, ils dominaient la plus grande partie des peuples celtiques. Et puis les Romains, vous voyez, pour leur politique extérieure, ça ressemble un peu à ce qu'ont fait les Américains en Amérique du Sud, c'est-à-dire qu'on contrôle qui doit être élu et qui doit être au pouvoir. Les Romains jouent les Éduins contre les Arvernes.
Ouais, c'est... Alors à l'issue, de... oui, pardon.
Non, non, ce que je veux dire, c'est que ce qui est fascinant, c'est aussi l'évolution du personnage, de la perception du personnage de Vercingétorix à travers le temps. Dans votre livre, vous expliquez que de vaincu, Vercingétorix est peu à peu passé au statut de héros national, transformant sa défaite et celle de la Gaule en une victoire morale. Vous montrez comment à chaque tournant de l'histoire, en fait, son image se transforme, surtout à partir du 19e siècle. Est-ce qu'il reste un vrai héros aujourd'hui ?
Ben, je crois que c'est tout à fait intéressant. Quand vous avez vu le dernier mouvement des Gilets jaunes, il est parti à cause d'une parole d'Emmanuel Macron qui a parlé des Gaulois réfractaires. Et aussitôt, les gens se sont emparés de cette image. Vous aviez au pied de Gergovie, sur un des ronds-points, il y avait une banderole qui disait « Ici ». Vercingétorix a défait Jules César, refaisons l'histoire. Donc, oui, il reste une sorte de héros populaire, c'est un héros de la liberté, en réalité, Vercingétorix. Mmh. Et effectivement, quand la France est confrontée à des grands changements historiques, cette image du Gaulois change. Au 19e siècle, on veut promouvoir l'idée que cette défaite est positive, qu'elle nous a fait rentrer dans la civilisation. Mmh. Et puis, avec la guerre de 70, et surtout la guerre de 14, on se rend compte que l'invasion du pays par une puissance étrangère, c'est pas forcément une partie de plaisir, et que ça peut être un drame, au contraire. Et donc, l'image de Vercingétorix change. Elle change en 40, avec la question de la collaboration. Vichy veut en faire un héros, la collaboration. Mmh. Celui qui, justement, accepte sa défaite et entre dans un nouvel empire.
Mais celui qui l'a érigé en statue et en symbole, c'est Napoléon III, quand même. Avec les pièces de monnaie qu'on a retrouvées sur le site d'Alésia, sur l'homme avec la moustache, cette statue, parce qu'il voulait se rattacher lui-même à une tradition, en tout cas.
C'est plutôt le travail des historiens, en fait. Hein, et c'est plutôt... Il y a une histoire de la Gaule qui sort sous la Restauration, qui révèle le personnage de Vercingétorix comme un véritable héros de roman. Un héros romantique, en fait. Hein, et c'est à partir de ce moment-là que, de héros populaire, il devient un enjeu politique. Parce que Napoléon III, en fait, a été le premier président élu, en réalité, et s'est emparé du pouvoir pour transformer ça en un empire. Il a un problème de légitimité.
Il faut qu'il l'assoie
sur une figure populaire qui, en même temps, est quelqu'un qui accepte de passer au nouveau monde, en réalité.
Et la moustache est arrivée quand ?
Oui. Alors, la moustache, en fait, elle arrive à la suite d'un témoignage des auteurs anciens. Il me semble que c'est Diodore de Sicile qui parle de ça, un historien romain, qui dit qu'en fait, il décrit les mœurs à table des Gaulois. Et évidemment, c'est tout ce qui choque les Romains. Et il dit en particulier que d'abord, on ne mange pas couché, ce qui est quand même incroyable. Hein. On mange beaucoup de viande, on mange peu de... Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas beaucoup de vin. Et les nobles gaulois se laissent pousser une moustache et, dit-il, cette moustache leur sert de filtre quand ils mangent, ça retient les gros morceaux et ils peuvent...
Stéphane va défaillir.
Voilà, bon, image caricaturale dont on s'est emparé ensuite pour reconstituer la physionomie du héros gaulois. Le casque avec les ailes aussi, c'est une invention.
Ah, ça c'est une invention totale.
Oui, je l'ai dit, oui.
Oh non, je vais relire Astérix différemment quand même. Hein.
Ça vient d'un poème, les poèmes d'Ossian, de faux poèmes celtiques du 18e siècle où on parle d'un héros celtique qui a un casque avec une aile de cygne. Et on s'est dit, une aile, c'est pas terrible, mettons les deux, c'est plus symétrique, ça sera plus joli.
Non, mais je vous recommande de lire le dernier livre de Laurent Olivier, ça sera plus simple. César contre Vercingétorix, publié chez Belin et qui vient de remporter le prix Louis Castex, un prix de l'Académie française. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours, dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et Clémentine Portier-Kaldenbach n'est pas la dernière, bien au contraire, à nous raconter ce qu'on ne devrait pas savoir.
Oui, alors là, il n'y a rien de très inavouable.
Mais attendez, je vous vends.
Mais je ne suis pas un produit. I am a human being, my dear.
Elle va nous raconter quand Danton trompait sa femme.
Voilà,
ça, c'est plus vendeur.
Voilà, sa femme. Tout à fait. Voilà. 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 Là, il y a un peu d'action, action, reaction. Alors, elle s'appelle Gabrielle Charpentier. Son père tient le Café du Parnasse dans l'île de la Cité, l'île près du Palais de Justice. Et Gabrielle est une voluptueuse brunette de 25 ans. Elle aide son père à servir les clients. Belle santé, belle humeur. Hein. Elle passe pas inaperçue. C'est une belle femme. Et parmi les habitués du café, un jeune avocat au verbe haut, à la forte personnalité. Stéphane, vous nous aviez fait son portrait. C'est un homme truculent, Georges-Jacques Danton. Alors oui, il est laid, il a le visage grêlé par la petite vérole, mais à l'époque, c'est une chose extrêmement courante. Oui. Hein, vous voyez, Mirabeau, beaucoup de gens ont la petite vérole.
Comme l'acné. Hein,
oui, voilà, c'est ça. C'est pas Jojo, mais enfin, on a l'habitude.
Il n'y avait pas de Biactol pour la petite vérole.
Ça n'existe pas à l'époque. Alors lui, il a une grosse cicatrice à la lèvre que lui a laissé
un chien l'avait mordu.
C'était la corne d'un taureau. Quand il était nourrisson, on lui faisait téter la vache au pis. Vous imaginez ça, extraordinaire.
Il avait confondu une vache avec un taureau. Et... comment un taureau.
On a du mal à comprendre l'enchaînement entre.
Il y avait un taureau qui était là, émoustillé par la vache, et le pauvre nourrisson, il se trouvait en dessous, et il s'est pris une ruade de taureau. Donc il a le nez complètement écrasé, et la bouche avec une grosse cicatrice. Mais enfin, c'est pas grave, cet homme-là lui plaît. Hein. Massif, tonitruant, grande gueule, ça lui plaît à Gabrielle, et puis en plus, elle est à deux doigts de coiffer Sainte-Catherine quand même, parce qu'elle a 25 ans. Ah oui. Alors bon, le père a trouve le projet de mariage, et puis après tout, lui, il est limonadier. Avoir une fille qui épouse un avocat, c'est quand même une promotion. Alors, il se marie à Saint-Germain-l'Auxerrois, là, entre Louvre et Pont-Neuf, là où il se trouve aujourd'hui, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas bien Paris, près de la Samaritaine. Et c'est le beau-père, alors ça aussi, je me souviens que vous nous l'aviez dit, Stéphane, c'est le beau-père qui prête à Danton l'argent nécessaire pour acheter une charge d'avocat au Conseil du Roi. Mais ce n'est pas parce que Georges épouse Gabrielle qu'il aime sans doute profondément. Ça n'est pas pour autant qu'il va cesser ses fredaines. C'est un homme à femme, Danton. C'est un grand consommateur. Et alors, il va trahir et tromper Gabrielle à tour de bras. Elle le sait, mais elle ferme les yeux parce qu'elle l'aime. Et oui, on peut aimer ceux dont on sait qu'ils vous trahissent. Ah, la force, la puissance du sentiment amoureux. Alors, ils habitent du côté de la cour du commerce, hein, près du café Procope. C'est là où habitent tous les révolutionnaires à l'époque. Et ils ont trois fils, mais... Et là, ce bonheur domestique va être emporté par la Révolution. Vous savez que en une journée à peine, après la prise des Tuileries, Danton, qui était un tribun charismatique, hein, en une nuit, il devient ministre de la Justice et chef du gouvernement. C'est ça la Révolution. Les destins sont bouleversés en l'espace de 24 heures. Gabrielle, elle ne comprend pas grand-chose à tout ça. Elle sait que la guillotine tourne à tour de bras et que c'est plutôt sanglant. Elle s'inquiète pour son mari, naturellement, mais ce qui la préoccupe davantage encore, c'est qu'elle est enceinte, elle a un quatrième enfant à naître. Et malheureusement, quand elle ressent les premières douleurs, son mari n'est pas là, il est en Belgique. Et là, c'est le drame, parce que Gabrielle meurt en couche d'un enfant mort-né, et Danton, lui, n'apprend la nouvelle que quelques jours plus tard, et il est absolument foudroyé. Il rentre à Paris, fou de douleur, bride abattue, épuise plusieurs chevaux. Impossible, impossible de ne pas embrasser une dernière fois Gabrielle. Lui aussi, il l'aime éperdument, c'est pas parce qu'il l'a trompé. Et alors, le 17 février 1793, arrivé à Paris, il se rend de nuit au cimetière Sainte-Catherine. Il a en poche une poignée d'assignats. Il se fait accompagner par le sculpteur Claude-André de Seine. Il obtient des fossoyeurs moyennant monnaie qu'il déterre le cercueil de Gabrielle. On l'ouvre. Georges soulève le linceul, prend Gabrielle dans ses bras, la couvre de baisers, implore son pardon pour ses infidélités. Et à ce moment-là, De Seine prend un moulage du visage de la morte. C'est quand même un truc incroyable.
C'est fou, ça.
Oui, c'est incroyable. Alors là, ça nous paraît ahurissant, non seulement de déterrer une morte, en plus de prendre son moulage pour en avoir un buste.
Moi, j'ai déjà fait faire un moulage de Stéphane, au cas où.
Ah, bah oui, mais d'accord.
J'ai rien senti.
Mais c'est ce qu'on appelle sur le
c'est
vif.
C'est souvent ce qu'on me dit.
Vous l'avez pris sur sur le vif, voilà, on se faisait prendre sur le vif, mais enfin, pas mort. Alors donc, Danton, absolument anéanti, et ça, on dit qu'il s'adressait souvent au bus pour lui demander pardon de sa trahison.
Pardonne-moi.
Et il reçoit une lettre de deuil très touchante de Robespierre, qui se dit son ami fidèle, lui écrit Robespierre, « Je t'aime plus que jamais ». Et jusqu'à la mort. Alors, trahison pour trahison, quelques mois après son deuil terrible, il épouse la jeune Louise Gély, qui avait 15 ans et qui gardait ses enfants régulièrement. Donc, en deuil, oui, mais enfin, il lui survit. Et quelques mois plus tard, eh bien, son grand ami Robespierre, qui l'aimait plus que jamais jusqu'à la mort, l'expédie à la guillotine le 5 avril 1794. Eh bien, voilà. Qu'en conclure, hein, peut-être que du point de vue de notre thème du jour, ce qu'il y a bien sûr de plus triste dans la trahison, c'est qu'elle ne vient jamais de vos ennemis.
Merci Clémentine Portier-Kaltenbach pour cette belle conclusion et voilà, cette histoire incroyable.
Mais oui, cette histoire nous a émus et bouleversés. Clémentine, vous restez bien sûr avec nous car vous êtes prêts pour le quiz? Oh bah dis donc, je vous ai connu plus motivé que ça.
Parce qu'elle sait que je gagne beaucoup en ce moment.
Ne dites pas n'importe quoi Stéphane. Le quiz
ça
dans un instant.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Il s'aime presque aussi fort que s'aimaient Robespierre et Danton, et entre eux, ça risque de finir pareil.
Quick.
C'est l'heure du quiz. Jouons.
Quoi? Vous avez osé dire quick?
Oui, j'ai dit quick. Jouons, citons aussi d'autres marques, McDonald's, Burger King. Jouons ensemble à Bern to be Alive, le quiz de culture générale historique qui oppose chaque après-midi Stéphane Bern à Clémentine Portier-Kaltenbach. La première question est pour vous Stéphane. En 1928, Sir Alexander Fleming découvre de façon accidentelle, on l'a raconté ici, la pénicilline. Cet antibiotique a été mis au point grâce à un champignon. Eh bien, c'est ce même champignon que l'on retrouve autour des saucissons secs sous forme de poudre blanche. Vrai ou faux?
Je serais tenté de dire oui.
Oui, je pense que c'est oui.
Mon intuition, en tout cas.
Qui vous a souvent porté chance.
Parce que ce sont les moisissures, les mêmes moisissures que le roquefort. Oui. C'est les moisissures du fromage qui ont donné la pénicilline.
Exactement, bien sûr.
Donc c'est tout à fait crédible, cette histoire de saucisson.
Vous avez gagné!
Eh bien, monsieur aime le saucisson, il s'y connaît.
J'adore,
C'est bien du pénicillium, les spécialistes appellent ça de la fleur de saucisson. Pour le saucisson artisanal, ça arrive naturellement pendant la période d'affinage. Sur les saucissons industriels, on la rajoute à la fin de la fabrication. C'est moche.
Je voudrais qu'on note tout de suite que Stéphane gagne son premier point sur le saucisson quand même.
Oui, mais dès que c'est gastronomique, j'adore ça.
Question
j'aime le saucisson, voilà.
Numéro 2 pour vous, Clémentine. Le principe des attestations de déplacement que nous avons connu lors des divers confinements n'est en rien nouveau. À Marseille, au début du XVIIIe siècle, pour lutter contre le fléau de la peste, on avait adopté le même principe des attestations. Vrai ou faux?
Alors, c'est tout à fait probable, parce qu'effectivement, au moment de la peste à Marseille, en 1720, il y avait un cordon sanitaire. On avait envoyé l'armée pour empêcher les Marseillais de fuir la ville. Donc, qu'on ait eu l'idée de créer une attestation, ça me paraît tout à fait crédible. Et de même que par la suite, Victor Hugo le raconte dans Les Misérables, Jean Valjean circule avec une sorte de carnet. Il y avait aussi le livret ouvrier, qui était comme une sorte de passeport avant l'heure. Donc, je dirais oui, ça me paraît probable.
Si après tout ce raisonnement, vous n'avez pas la bonne réponse, ça serait quand même assez ridicule.
Vous avez perdu. Gagné.
Vous avez évidemment gagné, Clémentine. Jérémy Ferrer Bartomeu, docteur en histoire, a récemment publié sur les réseaux sociaux une attestation datée du 4 novembre 1720. Elle autorise un consul de 28 ans à circuler à Blozac, dans le Gard. Les habitants de la Provence vont devoir utiliser une attestation de déplacement dans toute la région.
Et c'est à la fois logique parce que l'épidémie de peste marseillaise a pris fin précisément en novembre 1720. Donc c'est le moment auquel il fallait un peu montrer patte blanche pour quitter les environs de Marseille, où il y avait eu quand même, me semble-t-il, 50 000 morts, quelque chose comme ça. La seule ville de Marseille.
Elle cherche le point bonus, elle ne l'obtiendra pas aussi facilement.
Je cherche à masser le saucisson.
Le saucisson, justement, est face à vous, Clémentine. Il va devoir répondre à une question très courte, mais très difficile. Stéphane, l'homme de Néandertal enterrait ses morts. Vrai ou faux? L'homme de Néandertal, souvenez-vous de la frise.
Ouais. Hein?
Alors, Néandertal, Cro-Magnon, Sapiens...
Erectus.
Voilà.
Non mais c'est parce que je vous parle.
Erectus et saucisson, non mais voilà mon destin.
Est-ce qu'il se mettait debout déjà?
Écoutez Stéphane, si ça n'est pas néandertal, c'est que c'est sapiens ou cro-magnon. C'est-à-dire qu'en effet, on établit qu'à partir de la sédentarisation, les hommes commencent à enterrer leurs morts. Moi, ça me paraît possible, ça.
Moi, je trouve ça possible. Maintenant, est-ce qu'il avait les ustensiles, les outils pour le faire?
Dis donc, quand on peut chasser le mammouth, on peut creuser un trou pour enterrer ses morts, Stéphane.
Mais la période glaciaire, vous savez, vous êtes très très froid.
Ah, j'aime bien. Le Néandertal vivait à l'ère glaciaire, Stéphane.
Non,
bien sûr. J'aime bien quand toutes les périodes un petit peu comme ça se confondent joyeusement. Hein.
Ah, moi, je dirais oui. Oui, oui. Écoutez, trouve que Madame Néandertal, quand elle est morte, oui. Son mari l'a enterrée.
Son mari l'a enterrée. Oui, oui. Écoutons la réponse.
Vous avez gagné.
Oh, le saucisson est chanceux aujourd'hui. Oui, c'est une bonne réponse un peu au pif. Alors, on en a la preuve formelle que l'homme de Néandertal enterré ses morts. Depuis décembre dernier, une étude a été publiée dans la revue Scientific Reports du 9 décembre 2020. Une équipe de chercheurs internationaux a rattaché au Muséum national d'histoire naturelle a fini d'étudier le squelette d'un enfant de 2 ans, vieux de 41 000 ans. Il a été démontré qu'il avait été déposé dans une fosse rapidement après sa mort et orienté dans une position qui ne doit rien au hasard. Voilà, on sait maintenant, grâce à nos impôts, que l'homme de Néandertal enterrait ses morts. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. On connaît tous Saint-Nicolas, que l'on fête normalement le 6 décembre. Il est l'un des saints les plus vénérés de l'Église orthodoxe. En 325, en tant qu'évêque de Myre, dans l'actuelle Turquie, il assiste à un grand colloque théologique. Un prêtre libyen met en doute la divinité de Jésus. Saint-Nicolas est le seul à lui reconnaître le droit de penser autrement. Vrai ou faux ?
Oui, je pense que c'est vrai, parce que cette question de la Trinité, de la nature humaine du Christ, dans l'arianisme, justement, la question est de savoir qui est le Christ, est-ce qu'il est le Fils de Dieu, est-ce qu'il est homme devenu Dieu, enfin, ça a été longuement débattu. Je pense que c'est une époque à laquelle on pouvait peut-être envisager des théories théologiques de façon moins
dogmatique.
Moins dogmatique que par la suite. Je répondrai oui.
Saint-Nicolas serait donc ouvert d'esprit et comme ça qui.
Bah, c'était un saint en même temps.
C'était un saint, effectivement. Découvrons la réponse à cette question.
Vous avez perdu. Oh,
bon. Alors, désolé Clémentine, mais Saint-Nicolas n'a pas vraiment reconnu le droit de penser autrement, n'est-ce pas ? Il a simplement mis un bourre-pif à la personne en question, il ira en prison pour ça, mais le prêtre libyen, qui se posait beaucoup trop de questions, sera déclaré hérétique et Saint-Nicolas réhabilité. Tout est bien, qui finit bien, Stéphane.
Oui, exactement.
Jésus est bien d'origine divine.
Un bourre-pif, quelques siècles avant l'Inquisition et Torquemada, ils s'en sortaient bien. Hein, oui. Oui, enfin, j'aurais préféré avoir la question sur le saucisson.
Une prochaine fois, peut-être. Victoire de Stéphane Bern.
Non, arrêtez.
Oh non. Écoutez, mais la foule qui vous applaudit.
Oui,
c'est la foule de confinement.
Non, mais... Restons modestes.
Vous avez raison.
Demain est un autre jour, comme disait
Nietzsche.
Scarlett O'Hara.
h 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Parfois, à l'issue d'un enregistrement d'Historiquement vôtre, Stéphane réalise que certaines de ses interventions n'étaient pas aussi intéressantes qu'il l'avait pensé sur le moment. Il me demande donc de les faire couper au montage. Seulement voilà, Stéphane, je vous rappelle le thème de notre émission du jour. On n'est jamais trahi que par les siens.
Moi, j'adore Lamartine, moi. Vous savez qu'il s'est présenté à l'élection présidentielle pour la Seconde République, 1848, et il n'a pas été élu parce que les gens disaient Lamartine. On va voter pour Lamartine.
C'était vraiment très intéressant.
Oui, alors, voyez-vous...
C'était passionnant, Stéphane.
Cette histoire, on se l'est racontée entre nous, pas dans l'émission.
Ah si ?
C'était hors l'émission.
Oh, je ne sais plus où c'était.
Oui, oui, bien
sûr. C'était pas dans un dîner extérieur.
Donc, en fait, vous avez des magnétos, vous enregistrez tout ce que je dis.
On n'est jamais trahi que par les siens.
Oui, et bien vous êtes un traître.
Je suis un félon.
Quant à moi, je vais maintenant vous parler d'une deuxième trahison terrible. Celle que vécut la reine d'Écosse, Marie Stuart. Elle est vraiment née au mauvais endroit, au mauvais moment.
Et une fois que Stéphane aura fini d'épiloguer sur les morts, je vous prouverai que la trahison est une pratique toujours à la mode de nos jours, avec le très touchant témoignage de Donald T, un chef d'entreprise passé par la télé-réalité et la Maison Blanche, qui a aussi, vous allez voir, quelques couteaux dans le dos, et qui n'a même plus le droit de s'exprimer sur les réseaux sociaux, qui l'ont bloqué.
Sans oublier nos chroniqueurs. qui eux ne vont pas nous trahir.
Espérons-le. Oui. Sauf s'ils empoisonnent le petit salé aux lentilles, Stéphane.
Ah oui, ça c'est Olivier Pouls avec son petit salé aux lentilles.
On n'est jamais trahi par un petit salé aux lentilles, il est fidèle comme tout.
C'est super vieux comme plat.
Ah oui, les lentilles, ça fait un bout de temps qu'on en mange, du petit salé aussi, puis réunir les deux, oui. Là,
tout aussi vieux, il y a l'expression du jour.
Ne vous faites pas de mourons. Alors oui. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé.
Et moi, je l'utilise assez régulièrement, je me fais du mouron pour lui quand même.
C'est quoi le mouron?
Et bien justement.
Ah, vous pouvez pas nous
le
dire tout de suite.
Le mouron des oiseaux.
Oui,
écoutez, ne révélez pas tout.
Ne révélez pas tout. En se faire du mouron, on peut traduire je me fais du souci pour quelqu'un. Je me fais des cheveux blancs. Voilà.
Moi, je m'en fais beaucoup. Enfin, Stéphane, votre côté vieux jeu fait que ces sujets ne vous intéressent pas toujours. Stéphane, tu t'en fous de la 4DX alors que c'est l'avenir?
Mais à un point.
David Castello-Lopez est pourtant toujours passionnant. Vous nous racontez les origines d'une invention comme la 4DX ou les origines d'un objet aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est l'IPA, la bière qui a pris d'assaut les bars cool de Paris depuis une petite dizaine d'années, qui est devenue la bière des hipsters. Incontournable. Maintenant, j'aimerais savoir, je vais vous dire d'où elle vient.
On va en boire?
Malheureusement pas.
Parce que quand vous parlez du kawé, vous ramenez un kawé, et je préférais que vous rameniez une bière, tant qu'à faire.
C'est vrai, j'aurais dû le faire, mais je le ferai la prochaine fois quand ça n'aura plus rien à voir.
Mais tout de suite les amis, avant de plonger dans la bière, plongeons avec un certain effroi dans l'Angleterre du XVIe siècle à la rencontre d'une souveraine qui fut trahie de toutes parts. Stéphane Bern nous raconte la descente aux enfers de Mary Stuart.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Donnez-moi, Dieu vous le rendra, dit la Bible, ou Enrico, je ne sais plus. Mary Stuart a beaucoup donné, mais ce qu'elle a reçu en retour n'est pas beau à voir. Stéphane Bern nous raconte le destin de cette reine catholique et surtout maudite, trahie par les siens.
18 années de séquestration. C'est le sort que la reine Elisabeth Ière d'Angleterre a réservé à sa plus grande rivale, mais aussi sa cousine. Mary Stuart, reine de France, reine d'Écosse, certes, mais surtout reine maudite. D'ailleurs, c'est pas innocent s'il y a autant de films autour de ce personnage. Découvrez avec moi le destin tragique de Mary Stuart. Mais attention, car dans la famille, les trahisons peuvent surgir n'importe où, n'importe quand et de n'importe qui. Certaines petites filles rêvent de devenir des princesses. Mary Stuart, elle, est à peine née qu'elle est déjà sacrée reine. 6 jours après sa naissance, son père, le roi d'Écosse, meurt. 9 mois plus tard, en septembre 1543, elle est couronnée à son tour. Très tôt, Marie devient la monnaie d'échange entre nations rivales. Le roi d'Angleterre, Henri VIII, renonce à la conquête de l'Écosse si la jeune reine épouse son fils. Marie de Guise, la mère de la reinette, comme on la surnomme alors, Mary Stuart, refuse et préfère conclure une alliance avec un pays qu'elle connaît bien puisqu'elle en est originaire, comme son nom l'indique, un Marie de Guise, la France. À 6 ans, la frêle Marie quitte donc l'Écosse et sa famille pour grandir à la cour des Valois. L'enfant, avec ses cheveux roux et ses traits fins, enchante la cour. Espiègle, vive, elle subjugue par son intelligence et ses qualités athlétiques. Elle maîtrise l'équitation, la chasse, elle s'adonne à la poésie. À 14 ans, elle déclame une oraison funèbre en latin écrite de ses mains. Pendant 10 ans, la vie est douce à la cour de France. En 1558, elle épouse lors d'une fastueuse cérémonie en la cathédrale Notre-Dame de Paris, le dauphin François. Mais les événements se précipitent. L'année suivante, Marie se retrouve reine de France à la mort de son beau-père, le roi Henri II. Son époux, François II, s'éteint malheureusement quelques mois plus tard. Après une courte année de règne en France, n'ayant réussi à mettre au monde aucun héritier, Marie est remerciée sèchement par sa belle-mère, Catherine de Médicis. Oui, il ne peut pas y avoir 2 reines à la cour, vous l'avez compris.
Bien sûr.
Elle n'a plus le choix et elle repart vers son pays natal, l'Écosse. Mary Stuart a 19 ans, elle est veuve et débarque sur un territoire de 600 000 habitants dont elle est la reine officielle. Mais l'accueil, disons-le, est plutôt glacial. Ce pays des Highlands et du brouillard est bien éloigné du raffinement des châteaux de la Loire dans lesquels Mary s'est épanouie jusqu'à présent. Ici, des nobles aux manières un peu rustres et peu courtoises se disputent sauvagement le pouvoir. Les assassinats sont devenus le quotidien de la vie politique. Par ailleurs, Marie la catholique est très mal perçue par les presbytériens, donc protestants écossais, de plus en plus nombreux à écouter et suivre les directives du réformateur John Knox. Comment trouver sa place dans un pays qui ne l'aime pas ? Mary Stuart n'en a cure. Elle considère qu'elle détient son statut de reine uniquement par la grâce de Dieu. Elle se moque de la vie de ses sujets. Femme impulsive, elle agit avec passion avant tout, au risque de commettre de graves erreurs. La vie à la cour d'Édimbourg est bien fade pour Marie. La reine tombe amoureuse de son cousin catholique, Lord Darnley. Il est le petit-neveu d'Henri VIII et peut donc prétendre à la couronne d'Angleterre. Cette union, voyez-vous, est un premier faux pas politique pour Marie. Catholiques et protestants détestent cet homme arriviste, suffisant mais pas nécessaire, violent avec la reine et qui exige d'être considéré comme le roi consort. Marie s'y oppose. Son mari s'associe alors avec les farouches opposants de la reine et fait assassiner celui qu'il considère comme l'amant de sa femme, son secrétaire particulier David Rizzio. Marie, pourtant enceinte, divorce de ce mari violent et conspirateur. Il meurt étranglé après avoir survécu à un attentat aux explosifs dans sa maison. L'auteur présumé de cet assassinat, un certain James Hepburn, comte de Bothwell, qui deviendra plus tard le troisième et dernier époux de Marie
Stuart. Elle sait choisir ses compagnons.
La reine aurait-elle fait assassiner son deuxième mari?
Je me refuse à y croire.
Pour convoler en juste noces avec son nouvel amant? Dans le pays, la rumeur enfle. La reine a définitivement perdu le peu de confiance et d'estime que les nobles écossais et ses sujets avaient pour elle. Ils font tout pour la destituer, jusqu'à la poursuivre. Elle n'a plus le choix. Elle abdique au profit de son fils, Jacques James Stuart, qui a 1 an. Trahie par son peuple, la reine déchue doit trouver un nouveau pays d'accueil. C'est chez sa cousine, la reine Élisabeth Ière d'Angleterre, que Marie trouve refuge. Les femmes ne se sont jamais vues. Elles ne se rencontreront jamais.
Non.
Elles ne correspondent que par lettre. Si le ton de leur missive est cordial, l'une comme l'autre ne s'apprécie pas. La souveraine d'Angleterre craint que l'ancienne reine d'Écosse ne veuille lui ravir sa place sur le trône. Et elle a raison. Marie Stuart n'a jamais caché sa volonté de régner sur l'Angleterre. Alors pendant 18 longues années, Marie Stuart est assignée à résidence. Elle vogue de forteresse en forteresse, toujours très surveillée. Car la reine Élisabeth Ière a toutes les raisons de s'en méfier. Pendant ces longues années d'incarcération à travers l'Angleterre, Marie Stuart trouve régulièrement les moyens d'établir des contacts avec des alliés, notamment des comtes catholiques du nord de l'Angleterre, comme elle. Il souhaite renverser Élisabeth, non mariée, je le rappelle, sans enfant et protestante, pour la remplacer par la très catholique Marie. Leurs lettres codées sont interceptées et décryptées par des espions au service de la couronne d'Angleterre. C'est à cette période, et grâce au secrétaire d'État Francis Walsingham, que sont créés les premiers services d'espionnage anglais. Ce proche de la reine Élisabeth parvient à piéger la captive Marie Stuart. Il fait main basse sur de nouvelles lettres dans lesquelles elle admet vouloir s'enfuir, renverser sa cousine et même ne pas s'opposer à son assassinat. Cette fois, les preuves sont accablantes. Marie Stuart est jugée en 1586 à Fotheringay. À l'issue de ce procès sans avocat, Marie Stuart est déclarée coupable de haute trahison et condamnée à mort. La sentence appliquée pour les traîtres est la décapitation à la hache. Le bourreau, que l'on dit ivre, doit s'y reprendre à 3 fois pour étêter l'ancienne reine d'Écosse.
Étêter, ça fait penser aux gambas, vous savez, c'est affreux. Vous parlez d'une reine, Stéphane, un peu de respect.
Vous savez que son chien était réfugié sous ses jupes. Et il a cherché sa maîtresse pendant des heures.
Non, c'est très triste. C'est atroce.
Elle repose désormais en l'abbaye de Westminster, à 10 mètres du tombeau de celle qui avait signé son arrêt de mort, sa grande rivale et sa cousine, Élisabeth Ière d'Angleterre.
Toujours se méfier de ses cousins.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de la reine Marie Stuart, nous sommes avec Isabelle Fernandez. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en civilisation et histoire britannique des 16e et 17e siècles. Vous finissez d'écrire une biographie consacrée justement à Marie Stuart. Vous êtes la personne de la situation pour nous parler d'elle. On parle de Marie Stuart avec vous dans un tout petit instant sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
On n'est jamais trahi que par les siens, au sommaire d'Historiquement Vôtre cet après-midi. Et ce n'est pas la reine Marie Stuart qui nous contredira. On en parle avec notre invitée Isabelle Fernandez.
Oui, Isabelle Fernandez, vous publiez dans quelques jours une biographie consacrée à Marie Stuart aux éditions Talendier. Peut-on dire que Marie Stuart et Elisabeth Ière font partie des plus grandes rivales de l'histoire? Cela en s'écrivant, mais sans jamais se rencontrer. Jusqu'au bout, on a l'impression que tout les oppose.
Tous les opposent, en effet, qu'il s'agisse des intérêts d'État contraires, l'Écosse étant alliée de la France, la meilleure ennemie de l'Angleterre, ou qu'il s'agisse de leurs convictions religieuses, comme vous en parliez dans votre propos. Marie prétendait en outre à la couronne d'Angleterre, et à cela s'ajoute sans doute aussi une rivalité féminine. Marie était plus jeune, plus grande, plus belle qu'Elisabeth. Elle fut épouse et mère, alors qu'Elisabeth est passée à la postérité comme la reine vierge.
18 années de séquestration, Stéphane a dit. Marie Stuart l'a bien cherché ou c'est excessif de le dire comme ça, avec le recul des siècles? Qu'en pensent les historiens?
C'est un peu excessif de dire que Marie Stuart l'a bien cherché, car si elle a été certes l'ouvrière de son propre malheur, elle s'est également heurtée à des forces implacables qui lui échappaient totalement. Revendiquer sans en démordre la couronne d'Angleterre a été l'une des causes de sa chute, mais cette revendication était légitime, car elle avait du sang Tudor du côté paternel. Et ce qu'il faut, je pense, rappeler, c'est qu'à l'origine de cette ambition se trouve Henri II, son beau-père, qui dès 1553, donc elle n'est pas encore reine en Écosse, dès 1553, il avança dans les correspondances diplomatiques les droits de Marie à la couronne d'Angleterre. Et lorsqu'Elisabeth arriva au pouvoir en novembre 1558, il refusa même de reconnaître la nouvelle reine, proclamant à la place sa bru. Elisabeth et William Cecil ne devaient jamais oublier cet affront.
Elisabeth justement et William Cecil ont orchestré la chute de Marie Stuart. Quel a été le rôle précis de William Cecil justement dans cette chute?
Alors, il semble avoir été le principe dynamique derrière ce procès, parce qu'il éprouvait une espèce de paranoïa à l'encontre de Marie Stuart. Et il ne va cesser d'attirer l'attention d'Elisabeth, surtout après l'excommunication de 1570, sur le danger que représentait cette candidate potentielle à la couronne d'Angleterre. Et il prendra très vite l'exécution pure et simple de cette rivale, si gênante. Et c'est devant le refus obstiné d'Elisabeth d'entendre raison qu'il va échafauder avec Walsingham un plan pour incriminer Marie par le truchement de courriers sans doute falsifiés.
Oui, parce qu'il faut quand même rappeler que, évidemment, si une reine comme Elisabeth Ière d'Angleterre soutient la décapitation ou l'exécution d'une autre reine...
Mais oui, ça paraît bizarre.
C'est légitimé par avance.
Oui, qu'un jour on pourra la décapiter elle-même, donc c'est ça qui est étonnant.
Exactement. Voilà, exactement, c'est cette réticence. Elisabeth va résister, hein. C'est ce qui explique ces 18 années d'enfermement, parce qu'elle va résister jusqu'au bout, et c'est avec le dernier complot qu'elle va finalement accepter d'apposer sa signature à l'arrêté, hein. Donc c'est vraiment Cécile.
On lui a quand même forcé la main, et William Cecil était l'artisan. Mais il y a une autre chose, notre ami Mathieu le disait en filigrane, c'est vrai qu'elle l'a un peu cherché. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que Marie Stuart a quand même commis énormément de faux pas politiques.
Elle
n'a pas de sens politique. Ses amours interféraient en permanence dans ses décisions, et ses amours, ses mariages ont même provoqué sa chute, notamment avec James Hepburn, le comte de Bothwell.
Alors, les historiens sont en train de réévaluer ce troisième mariage, hein, puisqu'il semblerait qu'on soit loin de cette romance passionnée dont on parle assez souvent. Donc, certains historiens ont avancé la théorie selon laquelle cela aurait été en fait un mariage politique, puisque Boswell était protestant. Alors, je vous l'accorde, hein, ce fut un mauvais calcul, puisque c'est vraiment l'événement qui va entraîner la chute, l'abdication de Marie et la chute.
Est-ce que Marie Stuart est un personnage qu'on connaît bien aujourd'hui? Est-ce qu'il reste des zones d'ombre à son sujet, vous qui écrivez sa biographie?
Il reste une zone d'ombre majeure, hein, qui restera toujours, puisque les lettres de la cassette qui ont servi à la condamner à mort ont disparu. Et c'est justement cette partie qui nous échappe, qui nourrit le mythe de Marie, la fascination pour Marie, parce que l'historien manque de preuves.
Et puis un dernier mot aussi sur le fait que on avait le sentiment qu'elle avait tout pour être une incroyable reine de France, élevée sur les bords de la Loire.
Où elle se sentait bien.
Elle se sentait bien en épousant François II. Et sans la mort subite et soudaine de François II, eh bien, elle aurait été peut-être une meilleure reine de France qu'elle n'a été une bonne reine d'Écosse.
Alors on ne n'écrit pas l'histoire avec des suppositions, hein, nous sommes bien d'accord. Même si effectivement elle a cette réputation de mauvaise reine, il semblerait malgré tout que durant ses années de règne sur l'Écosse, elle ait fait preuve de certaines initiatives pour imposer son autorité. Et en même temps, on peut aussi se poser la question, qu'aurait été Élisabeth sans William Cecil? Et donc Marie a manqué de conseiller, donc elle manquait d'intelligence politique, mais elle n'a pas eu non plus quelqu'un de l'étoffe de William Cecil pour l'aider. Et en même temps, on compare aussi beaucoup avec Élisabeth, mais peut-on comparer un règne de 45 ans à un règne de 8 ans? Et pour revenir sur sa destinée française, une reine de France, elle en a reçu l'éducation, certes, mais elle a reçu une éducation de reine consort. Elle devait briller aux côtés de son époux et nullement régner en son nom propre. Donc, elle n'a pas reçu l'éducation pour être une reine régnante, mais simplement pour être une reine au bras d'un roi de France.
C'est ce qui explique peut-être aussi ces erreurs. En tout cas, merci Isabelle Fernandez. Oui. On a hâte de lire votre biographie de Marie Stuart.
Dépêchez-vous de la finir.
Oui.
Oui, enfin, on est plus à quelques mois qu'à quelques semaines.
Ah, bon, voilà. Bon, très bien. Ben, on patientera jusque-là. En tout cas, ça sera publié aux éditions Talendier. On va suivre ça avec attention. Merci beaucoup,
merci
Isabelle Fernandez.
Merci à vous.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
On n'est jamais mieux trahi que par les siens. C'est le thème de notre émission cet après-midi. Après les exemples lointains de Vercingétorix et de Marie Stuart, vous nous racontez, Mathieu, l'histoire d'une trahison plus récente, celle dont a été victime le futur ex-président des États-Unis, l'infortuné Donald Trump.
Oui, Stéphane, je sais que c'est un sujet sensible pour vous, supporter de la première heure,
non,
qui avait été de tous les meetings du candidat républicain, et qui, depuis l'annonce de sa défaite, noyait votre chagrin dans le Porto en chantant du Dalida.
Comme prima, tu me donnes tant de joie que personne ne m'en donne comme toi.
Oui, Dalida, après le suicide. Les Français entendent votre détresse, Stéphane.
Oui.
Ils l'entendent. Mais je crois qu'il faut désormais se rendre à l'évidence. Votre chouchou, Donald, va devoir se résigner à quitter la Maison-Blanche pour céder la place à Joe Biden, celui que vous appelez en petit comité le bolchevique.
Est-ce que vous voulez bien faire votre texte, mais en m'oubliant?
Certainement pas, Stéphane. Je suis payé pour ne pas vous oublier. Comment ce winner de Donald en est-il arrivé là? Eh bien, peut-être un peu parce qu'il s'est montré arrogant, incompétent, jouant au golf et tweetant pendant que ses concitoyens crevaient de la Covid, qu'il s'est mis à dos la communauté noire, hispanique, gay et lesbienne, qu'il s'est ridiculisé avec son histoire de mur à la con à la frontière mexicaine qu'il a finalement jamais construit, et sa proposition géniale contre le virus de se désinfecter de l'intérieur à la Javel. Peut-être que tout ça a un peu joué en sa défaveur, mais surtout, surtout, Donald a été trahi par les siens. Orchestra Hit. Être trahi par les siens, Stéphane, c'est ce qu'il y a de pire, comme vous avez pu le constater hier, quand, craignant pour ma santé, je me suis soudain désolidarisé de vous. Vite un test. Comme vous, Donald Trump a été trahi par ses proches, trahi ou manipulé. D'abord par son père, le sympathique Fred Trump, mania de l'immobilier new-yorkais, décrit comme un sociopathe notoire dénué d'émotions qui a manipulé toute la famille pour son propre profit, selon Mary Trump, la nièce de Donald dont nous allons parler. Parmi ses fils, Fred Trump détecte rapidement le plus sociopathe dénué d'empathie qui sera apte à prendre un jour la succession à la tête de l'entreprise. Il s'agit évidemment de Donald, qu'il élèvera dans le culte de la réussite et à qui il inculquera cette belle devise de vie « Crush the others before they crush you ». Écrase les autres avant qu'ils ne t'écrasent. Adolescent, Donald donne toute satisfaction à son papounet en ne manifestant aucun intérêt pour l'écologie, les combats associatifs ou la poésie italienne du 19e siècle. Tout ce qui l'intéresse, c'est les filles et le pognon. Fred, pourtant, n'est pas encore totalement convaincu. Comment pourrait-il rendre son fils encore plus con? Ah oui, voilà, en l'inscrivant dans une académie militaire. Bingo! Selon plusieurs camarades de promo, c'est cette académie militaire qui permettra à Donald de se révéler pleinement, notamment en passant la bite au cirage des nouveaux arrivants. Il va goûter au plaisir de la domination et de l'humiliation de son prochain, plaisir auquel il va vite devenir accro. On ne juge pas, chacun prend son plaisir où il le peut dans la vie. Personne, par exemple, ne va reprocher à Stéphane de prendre son pied dans d'étranges jeux SM à base de galettes des rois.
Il est venu avec une galette Ah, oh, mais avec de la frangipane chaude.
Oh. Oh. Chacun ses plaisirs. Chacun ses plaisirs, Stéphane. On ne juge pas. Donald Trump découvre donc celui qui consiste à rabaisser l'autre pour mieux se mettre en valeur soi-même. Il monte dans l'estime de Papounet, qui va même le préférer à son frère aîné, Fred Jr., pour reprendre les rênes de l'entreprise. Une décision que n'a jamais totalement digéré le frérot, qui décédera à 43 ans, broyé par l'alcoolisme. Fast forward, le père de Donald meurt. Alzheimer 1, Fred Senior 0. Le frère aîné éclamsé aussi, Donald va enfin pouvoir entrer dans le bureau de PDG, s'affaler dans le fauteuil en cuir du boss en mettant ses pieds en l'air sur le bureau, car tous ceux qui ont réussi le savent, mettre ses pieds sur le bureau, Stéphane...
C'est une façon de montrer mes loups boutins.
Oui, non, c'est surtout une manière d'afficher crânement sa supériorité et son détachement par rapport à sa propre réussite. Seulement voilà, à peine la loup boutin droite levée, Donald déchante déjà, le poison de la trahison est en marche. Sa nièce, Mary, petite fille de Fred Senior, fille de Fred Junior, l'alcoolo qui a clamsé, sœur de Fred III, conteste le testament de Fred Senior et assigne Donald au tribunal des successions. Selon la coriace Mary, le testament aurait été obtenu par fraude et influence indue. Donald, fraudé. L'attaque semble évidemment grotesque, mais Mary fait valoir la démence de Fred Senior et elle s'y connaît en démence. Elle est psychologue clinicienne et professeure à l'université, distinguée pour ses spécialisations en traumatisme, psychopathologie et schizophrénie. Bref, grande psychologue qui, elle, contrairement au médecin de l'armée luxembourgeoise qui l'avait examinée, ne serait pas tombée dans le bluff de Stéphane pour échapper au service militaire.
Un jour sans retour.
Réformé P4, bien joué Stéphane. Hélas, ayant déjà mis la main sur l'essentiel de la fortune familiale, ce filou de Donald réussit à négocier un règlement à l'amiable. Il fait la paix avec Mary, sa nièce relou, et beau joueur demande même à Johnny de lui composer une chanson.
Oh Mary.
Enfin si délesté de ses petits tracas juridiques, Donald peut prendre son envol. Sa passion, comme Stéphane Plaza, l'immobilier. Il rachète des buildings vétustes et les transforme en palaces à coups de millions. C'est l'âge d'or de notre milliardaire, la Golden Era, la Golden Hour, peut-être même la Golden Shower, mais ça sera l'objet d'une autre émission. Trump s'étend, Trump franchise, casino Trump, parfum Trump, bouquin sur le succès made in Trump, des steaks certifiés à 99% Trump et 1% de bœuf Angus, qui ne seront commercialisés que 2 mois, et encore aujourd'hui toute une ligne de merchandising qui va de la clé USB Trump en forme de lingot d'or au masque gommant exfoliant Trump, sans oublier la bougie figue et bergamote Trump. Mary, la nièce relou, se tait. En 2003, Donald lance sa propre émission de télé-réalité sur NBC, The Apprentice. Marie, la nièce relou, ronge son frein. Jusqu'au jour où son tonton décide de briguer la Maison Blanche. Là, trop c'est trop, too much is too much, fuck it, I'm going to balance everything, se dit Marie. Quelques temps plus tard, le New York Times reçoit anonymement un bien joli carton. Dedans, des centaines de documents fiscaux appartenant à la famille Trump. En découvrant cette manne inespérée, le directeur de la rédaction du Times s'exclamera, comme Stéphane tombant par hasard sur le journal intime de Marie-Thérèse d'Autriche, des documents gratinés décrivant en détail la fraude financière de Donald, qui, vous vous en doutez, ne se limite pas à quelques notes de room service en frais réels. Un prix Pulitzer viendra récompenser les auteurs de l'article du Times. Mary, elle, se sent pousser des ailes. Elle décide de publier un livre. Comme titre, Donald lui suggère « Mary, the shitload wicked motherfucking traitor niece », la nièce fouineuse pas très sympa, en gros. Elle lui préférera le titre « Too much and never enough », trop et jamais assez, auquel elle adjoint un sous-titre « Comment ma famille a créé l'homme le plus dangereux ». En matière de trahison par les siens, alors là, on est bon, comment vous dire, elle balance tout. Comment le patriarche a bousillé ses gosses, comment Donald lui a emboîté le pas dans le pas de sentiment, pas d'empathie, pas de morale. Comment Fred Jr. a été méprisé puis sacrifié. Elle décrit Donald comme un homme d'affaires inepte qui n'a pu sauver les apparences que grâce à la réticence de ses associés à démolir la façade, considérant sa notoriété comme un atout. Elle déclare aussi que parce que sa maturité psychique a été empêchée de se développer pleinement depuis son jeune âge et qu'il est mentalement resté bloqué à l'âge de 7 ans, il reste extrêmement sensible à la manipulation par des acteurs locaux et étrangers plus compétents. Ça a dû être sympa, Thanksgiving, chez les Trump. En tout cas... Pauvre Donald, traîné dans la boue par sa nièce et désormais lâché même par Fox News, la chaîne de son poteau Robert Murdoch, qui commence aussi à prendre ses distances. Comme l'a très bien analysé Gabriel Sherman, un correspondant du Vanity Fair aux États-Unis, Fox News s'éloigne de Trump sur la pointe des pieds comme on s'écarte dans une soirée du gars qui vient de péter. Moralité, pour éviter l'aérophagie et de se retrouver tout seul au milieu du dance floor pour le quart d'heure américain, il est recommandé de manger lentement, de bien mâcher, d'y aller mollo sur les glucides peut-être, aussi de ne pas se comporter comme un sociopathe narcissique, misogyne, manipulateur. manipulateur, capricieux, borné, cupide, agressif, étroit d'esprit, démoniaque et menteur, à bon entendeur. Dernière trahison ultime, c'est Twitter, sa plateforme préférée, qui lui assène le coup de grâce en supprimant son compte pour une durée indéterminée. Une petite ironie teintée d'hypocrisie quand on sait que c'est Twitter qui a donné à Donald la possibilité pendant 4 ans de s'exprimer en toute impunité et d'attiser la division, la haine et toutes sortes de sentiments qui, mêlés ensemble, donnent visiblement une envie irrépressible de se recouvrir la tête d'un bonnet à cornes de buffle et de souiller un symbole de la démocratie. Petit plaisir, certes éphémère de ce début d'année, le message d'erreur qui apparaît lorsqu'on clique sur feu le compte de Donald Trump. Vous tentez de suivre un utilisateur qui n'existe pas. On aurait très envie d'y croire. Et désolé Stéphane pour ce récit qui a dû vous choquer, vous qui êtes absolument allergique à toute forme de trahison, vous qui ne trahirez jamais un proche, ni un ami, ni même un collègue. Si, un collègue peut-être.
Je ne veux pas dénoncer quelqu'un. Je connais quelqu'un à Europe 1 qui va skier en Suisse dans quelques jours.
Top, on n'en dira pas plus, mais bon voyage David. Je crois que vous allez avoir beau temps, hashtag, de regarder un peu mes enfants.
Merci Mathieu, c'était 99% vrai.
Oui, 99%.
Il n'a pas vendu des steaks Trump quand même.
Il a vendu des steaks Trump, ça ne fait pas partie du faux, Olivier. Et le gommage exfoliant, je vous le conseille, il marche très bien, il n'y a qu'à voir son teint, absolument pas rougeau.
Et la coupe aussi, les cheveux qui arrivent derrière, qui sont remenés en avant.
Ça vous fascine. Hein.
Le comb over, on appelle ça en anglais.
Oui. Le
comb over, c'est de prendre des cheveux de
derrière et les mettre devant, parce qu'en fait, il est chauve.
Ou sur le côté aussi.
Capillairement, 2020 a été riche en surprises entre lui et Boris Johnson. C'est vrai qu'on a vu des choses assez fascinantes.
On a vu des choses incroyables. Merci beaucoup, Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour.
Au revoir, personnages du jour.
Qui ont découvert à leurs dépens qu'on n'est jamais mieux trahi que par les siens.
Oui, Stéphane. Et dire que Donald Trump va quitter la Maison-Blanche sans avoir fini le mur à la frontière mexicaine. 4 ans pour monter un mur. Comme disait tout à l'heure Olivier, qui adore les blagues sur les Portugais, il aurait dû embaucher David. Oui, Stéphane, c'est l'heure de retrouver nos deux zigomars de l'histoire qui, en regardant dans le rétro, nous permettent de mieux comprendre le monde d'aujourd'hui.
Oui, des vrais plats traditionnels, des vraies origines contrôlées. Le petit salé aux lentilles d'Olivier Pouls.
Direction l'Auvergne.
Le mot de la fin reviendra évidemment à Stéphane Bern. Dites-moi, Stéphane, le mot de la fin, c'est se faire du mouron.
Oui, absolument. C'est un peu vous, comme le jour, vous savez, vous avez garé votre Porsche devant au pied de repas et que toutes les 5 minutes vous alliez regarder à la fenêtre pour voir s'il se passait rien.
Écoutez, disons la vérité, auditeur. Oui. J'ai investi dans une modeste Twingo diesel. Je vais voir effectivement parce que pour moi, pour vous, c'est peut-être pas grand chose, mais pour moi, c'est un investissement.
Mais c'est vrai qu'il y avait une angoisse qui venait du fond du cœur.
C'est vrai, c'est vrai. Bon,
alors. D'ailleurs, je vois passer. Oh, qu'est-ce que c'est? Un camion. Ils sont en train de me
lancer la suite, je vais jeter un coup d'œil dehors.
Ici, Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, une émission d'histoire à la base, et pourtant, et selon le CSA, l'émission où on prononce le plus souvent la phrase « à consommer avec modération ». C'est-à-dire que dans chaque sujet, on réussit à glisser un peu d'alcool.
Vous remplissez votre case, non?
Simultanément. Grâce à David Castello-Lopez, qui chaque jour remonte pour nous aux origines d'une invention. Aujourd'hui, une invention de bobo, on peut
le
dire.
Oui, tout à fait. J'ai déjà eu l'occasion de parler des hipsters ici, qui sont quand même des gens formidables. C'est quand même eux, il faut pas oublier, qui ont réussi à rendre cool le fait de s'habiller comme des bouffons, ce qui est quand même remarquable. Et notamment le fait, je l'avais cité, de boutonner ses chemises jusqu'en haut. Ouais. Voilà.
Ce qui n'est même pas agréable d'ailleurs.
C'est pas agréable.
On se sent un peu étouffé.
Surtout quand on mange.
Des pantalons trop courts aussi.
Ah oui,
des pantalons
aussi,
beaucoup trop courts. C'est-à-dire que c'était vraiment comme
l'inverse de la mode dans les années 90.
Tout à fait. Les jeux, c'était vraiment le premier de la classe, pas cool, bolos du collège, qui devient le mec le cool. Plus cool, machin. C'est très impressionnant.
Les derniers sont les premiers, disait la Bible.
Oui, tout à fait. Et comment ils ont réussi à faire ça? Eh bien, grâce au second degré, à l'ironie. Les hipsters, ils font un très grand nombre de choses ironiques. Et pourquoi ils aiment l'ironie? C'est parce qu'elle leur permet de signifier qu'ils sont lucides. L'ironie, c'est un chemin vers l'authenticité. Mais il y a d'autres chemins qu'ils utilisent vers l'authenticité. Et l'un de ces chemins, c'est une alimentation alternative, équitable, saine. Les hipsters, ils mangent vraiment des choses que personne d'autre ne mange, comme des plantes vertes, par exemple. Mais surtout, ils boivent de l'IPA. Alors l'IPA, c'est une bière dont personne avait entendu parler il y a 10 ans. Mais qui aujourd'hui est devenu un peu la bière cool par excellence qu'on trouve dans absolument tous les bars cool. Alors IPA
quand ils sont ouverts.
Quand ils sont
IPA,
ouverts.
IPA, c'est IPA, en fait.
IPA, tout à fait. D'accord. C'est de l'anglais, oui. Non, mais... IPA, ça veut dire... Tout à fait, IPA, qui veut dire India Pale Ale. En gros, la bière pâle d'Inde. C'est une bière qui a un goût un petit peu chelou, qui est souvent beaucoup plus amer que la moyenne. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a une plante qui est présente dedans en plus grande quantité que dans les autres bières. Et cette plante, c'est le houblon. Houblon, c'est une sorte de liane couleur de weed, hein, assez jolie à regarder. Je vous en apporterai à l'occasion si vous voulez. L'IPA...
Rapportez-nous directement la bière.
Oui, voilà. L'IPA, ça existe depuis au moins le 18e siècle. À l'époque, elle était servie dans les colonies anglaises et en particulier en Inde, hein, d'où le nom. Mais elle a ensuite été complètement, enfin en gros, complètement oubliée jusqu'aux années 60 aux États-Unis, époque où est né ce qu'on appelle parfois le mouvement brassicole. C'est très joli à dire, mouvement brassicole. C'est-à-dire, le mouvement brassicole, c'est des gens qui ont commencé à fabriquer de la bière dans leur garage pour dire fuck à l'industrie agroalimentaire. Mais la question aujourd'hui qui est intéressante, c'est d'essayer de savoir pourquoi est-ce que l'IPA a énormément de succès aujourd'hui en particulier, plutôt qu'il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a 30 ans. Alors, la réponse rapide, c'est que les choses amères, d'une façon générale, sont beaucoup plus à la mode qu'avant. On mange beaucoup plus de roquettes, par exemple, plus de chocolat noir, les ventes d'Aperol, par exemple, qui sert à faire le spritz. Elles ont été multipliées par 75 entre 2010 et 2015. Mais là, en fait, fondamentalement, j'ai fait que déplacer la question. Parce que du coup, on se demande pourquoi est-ce que les choses amères sont graves à la mode, hein. Alors ça, c'est dur à dire, mais l'hypothèse de certains observateurs des tendances culinaires, c'est que les gens font de plus en plus attention à leur santé et donc à ne pas bouffer des cochonneries. Or, inconsciemment, on se dit que les choses difficiles à aimer, par exemple les choses amères, sont forcément bonnes pour la santé, contrairement au sucre, par exemple, que absolument tout le monde aime, mais qui provoque la laideur et le décès. Alors moi, j'ai commencé par détester l'IPA, et puis subitement, j'ai eu une sorte de révélation, et j'ai commencé à aimer, et donc j'étais un petit peu fier, parce que j'avais l'impression d'être cool. Malheureusement, j'ai appris qu'il y avait aujourd'hui une bière encore plus cool que l'IPA, qui est la bière acide. J'ai essayé et je trouve ça, c'est complètement imbuvable. C'est-à-dire c'est comme quand on donne du citron aux bébés, vous savez, qui font des têtes comme ça.
Vous faites bien le bébé citronné.
Je fais bien le bébé citronné, que pas à la radio, mais pour les gens qui regardent pour voir ma tête. Et voilà, donc c'est complètement imbuvable pour moi, mais c'est déjà la bière préférée de beaucoup de hipsters, donc je me sens déjà un petit peu lâché, si vous voulez.
Si vous, même vous êtes lâché par les hipsters, c'est que les hipsters vont trop loin.
Vous avez déjà essayé, Mathieu?
En écoutant David, je me souviens avoir bu effectivement cette bière. J'ai dû d'ailleurs commander une IPA probablement. Et probablement pour ça que le serveur m'a regardé en soupirant, en se disant quel loser celui-ci.
Une IPA. Merci beaucoup, David. On retrouve Les Origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.
Et après ce détour au pays des hipsters, je vous propose de revenir dans la France profonde, la France qu'on aime, la France de Jean-Pierre Pernaut, la France de Stéphane Bern, la France d'Olivier Pouls,
avec la France éternelle,
le petit salé. Aux lentilles.
Oui, ça c'est pas pour les hipsters. Oui. C'est pas le boulgour, je sais pas quoi.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
La dernière fois que Stéphane est venu dîner à la maison, il n'a même pas réussi à faire semblant.
Mais c'est dégueulasse.
Depuis, je ne cuisine plus sans les conseils d'Olivier Pouls, notre expert gastronomique, qui va nous ramener dans cette France profonde qu'on aime viscéralement et où on ne boit pas de l'IPA ou je ne sais quelle connerie de bière acide, mais où l'on mange
du petit salé. Ça ne ment pas, oui.
Voilà, ça,
c'est le pays réel.
Vous, Stéphane, qui êtes au régime en ce mois de janvier, vous me l'avez confié hier.
Remercie, oui.
Vous ne prendrez pas de mon petit salé aux lentilles.
Non, je compte les points.
Ah, hélas. Bon, alors c'est vrai que c'est plutôt un plat hivernal, hein. C'est un plat revigorant, c'est un plat qui nous vient d'Auvergne. Et l'Auvergne est une des grandes régions françaises productrices de lentilles. Alors la lentille, c'est probablement l'une des céréales les plus anciennement consommées dans le monde, probablement 10 000 ans. Elle a beaucoup voyagé, elle est arrivée à l'époque gallo-romaine par chez nous.
C'est 12 points sur Weight Watchers.
Ah bon?
Ah oui, alors attention, il faut expliquer. Il faut dire que Stéphane s'est remis à Weight Watchers.
Oui, parce qu'une assiette de petits salés aux lentilles.
12 points.
C'est 12 points.
Mais je sais pas ce que vaut un point.
À 23 points par jour.
On a droit à 23 points.
On a droit.
Vous prenez les lentilles, vous êtes déjà.
Une assiette de petits. Je suis à la moitié de ma ration.
C'est très bon, les lentilles, il y a du fer dedans.
Oui, bien sûr.
Oui, mais c'est très calorique.
Alors, c'était appelé la viande du pauvre pendant de très nombreuses années.
Parce qu'il y a des protéines.
Il y a des protéines.
J'adore.
C'est très bon pour la santé.
J'ai mangé une cuillère de lentilles le premier de l'an. Enfin, c'est une tradition.
On sait s'amuser chez les Bernes.
Vous avez cette tradition au Portugal?
Non, on mange des petits raisins avec les coups de minuit. Ouais.
Et ben oui, c'est la
vous
même tradition.
Dire, en pleine pendant la soirée de France 2,
oui,
vous avez.
Je vous explique
oui,
parce
en
que
coulisses.
Plus c'est nombreux, ça veut dire qu'on aura plein d'argent ou en tout cas on en aura assez pour l'année.
Il me reste un peu de temps pour faire.
Ah oui, pardon. Oui, on parlait d'un décompté, du temps de parole de Mathieu.
En tout cas, je vais raccourcir. Dès le XVIIe siècle, les lentilles du puits ont déjà forte réputation. Alors, les lentilles du puits, entre la lentille originelle plutôt d'Asie centrale, elle est blonde, mais elle va muter au fil du temps, et notamment la lentille du puits va devenir verte au fil des siècles. C'est une adaptation probablement de la plante à un environnement très particulier, à un terroir. Il y a un terroir là-bas qui fait qu'au XVIIe siècle, ces lentilles ont une énorme réputation, et dans les années 1930, et les producteurs sont obligés de se battre à coups de procès pour éviter qu'on ne copie et qu'on utilise la mention lentille du puits ailleurs. Ils seront d'ailleurs, en 1996, premiers légumes à obtenir une appellation d'origine contrôlée, aujourd'hui appellation d'origine protégée. Alors cette lentille, elle s'accommode parfaitement bien de ce qu'on appelle le petit salé. Alors le petit salé, là aussi, c'est une technique de conservation de la viande qui remonte à l'Antiquité. C'est la viande de porc qu'on conserve dans du sel sec, tout simplement. Alors le sel a cette propriété d'éviter que la viande ne pourrisse et en tout cas ne se charge de bactéries néfastes, et donc on peut conserver longtemps cette viande. Il y a juste une précaution importante, c'est de bien la dessaler avant de l'utiliser. Alors on utilise de la palette, du jambonneau, de la poitrine ou de l'échine que l'on va acheter chez le boucher. On demande du petit salé, tout simplement. On va dessaler cette viande pendant au moins 2 heures dans de l'eau, dans un grand volume d'eau froide, parce que sinon elle n'est pas mangeable, elle est évidemment beaucoup trop salée. On va la faire cuire ensuite 2 heures encore dans un bouillon, en écumant régulièrement, parce que la cuisson à l'eau va permettre à la viande de dégager ses impuretés, et donc tout ce qui remonte à la surface, eh ben on l'enlève, on l'écume. On va préparer nos lentilles, qu'on va cuire avec une carotte, avec un oignon, un clou de girofle, un petit bouquet garni, un verre de vin blanc, de l'eau, on laisse cuire 40-45 minutes. On va rajouter ensuite la viande par-dessus. On va encore cuire 40-45 minutes dans une cocotte. On peut rajouter une petite saucisse de Montbéliard si on a envie. Et puis voilà, on a ce plat mijoté. Le bouillon va prendre le goût de la viande, évidemment. Les lentilles, vous allez voir, c'est délicieux, c'est fondant. Et en même temps, comme on dira en italien, un peu al dente. Et vous avez toutes ces saveurs. Et un bon plat à 12 points Weight Watcher. Dans votre assiette.
Moi, je sens que je vais pas prendre une seule assiette, je sens que je vais faire un bon 50 points ce soir. Quand j'entends ça, ça me donne envie. Ah non, les lentilles, en plus, ça se mange
en
quantité.
C'est vrai.
Hein? C'était excellent pour la santé.
Vous savez, je vous recommande, faites-les avec, de m'immiscer dans les chroniques gastronomiques de
Limoges qui fait ça.
Mais on le fait beaucoup avec du lard. Vous savez, on met des petits morceaux mais essayez avec du haddock. Une salade de lentilles avec des petits morceaux de haddock.
Le côté fumé du haddock, ça marche très bien avec la lentille.
C'est très bon, ça vous fait, pour pas cher, ça vous fait une entrée.
Bah, surtout, on peut comprendre que le chef à domicile de Stéphane a fait ça l'autre jour et qu'il s'en souvient. Merci beaucoup, Olivier. On peut retrouver toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr.
Trahi.
Stéphane, oui, je connais quelqu'un qui a été trahi tout à l'heure sur sa passion pour l'automobile. Donc, nous n'irons pas de ce côté-là. Un partout dans la trahison. Justement, Stéphane, vous disiez que je me faisais du mouron pour ma voiture. Oui. D'où vient l'expression « se faire du mouron » ?
Mais vous le saurez dans un instant.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Et oui, c'est vrai, Stéphane le disait tout à l'heure un peu sournoisement, depuis que j'ai changé le catalyseur sur ma Punto, je suis un peu anxieux quand je la gare en bas.
Je pouffe.
Quand je la gare en bas d'Europe 1, c'est vrai, je vais voir par moments si elle est bien. Toujours là, je me fais du mouron.
Oui.
Mais d'où vient cette expression, Stéphane ?
Ben, on se fait du mouron quand une personne de son entourage, par exemple, est inquiète, quand elle se fait du mauvais sang, on peut tenter de la rassurer. Allez, tu fais pas du mouron.
On dit aussi se faire de la bile.
On le dit, vous avez raison, mais c'est pas l'expression que j'ai choisie pour moi. Donc, en même temps, c'est...
Donc,
c'est,
ferme ta gueule.
C'est ma chronique, vous voyez.
Oui, donc, pardon.
Aujourd'hui, c'est se faire du mouron.
C'est faire du mouron.
L'origine du mouron, donc, remonte au XVIIIe siècle. Ça va vous intéresser, je le crois. Le mouron est une petite plante sauvage.
Ça m'intéresse déjà.
Est une petite plante sauvage que l'on trouve en Europe, et c'est vrai, particulièrement en France. Son aspect est original car les feuilles sont touffues avec des petits poils blancs sur les bords. Un peu comme vous, Mathieu. Je vais vous appeler mon mouron maintenant. Petite parenthèse, les cuniculteurs...
J'ai très peur. On partait des poils blancs au cuni quelque chose.
Les cuniculteurs se méfiaient du mouron.
Oui, pourquoi ?
Parce que la plante était un poison pour les lapins du clapier. Fin de la parenthèse. Mais tout ça explique beaucoup de choses. Assez naturellement, le lien s'est fait entre cette plante, le mouron, et une bonne santé capillaire. Comme les gens anxieux avaient tendance à se faire des cheveux blancs, on a rapidement dit se faire du mouron. Ensuite, on a dit directement, il se fait des cheveux blancs. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde. J'étais clair, non ?
Je crois que c'est le mouron des oiseaux. Et oui. Ça se consomme d'ailleurs. Oui. En cuisine, on l'utilise.
Sauf pour les lapins du clapier. Ouais. Parce que là, vous pouvez vous faire du mouron pour eux. Et à propos d'inquiétude, finissons par une citation souriante de George Bernard Shaw. Une femme s'inquiète de l'avenir jusqu'à ce qu'elle ait trouvé un mari. Tandis qu'un homme ne s'inquiète de l'avenir que lorsqu'il a trouvé sa femme. C'est cruel, mais moi, ça m'a fait rire.
C'est toujours bon de terminer comme ça sur une petite touche misogyne, comme ça.
Non, mais.
Très
misogyne. Oui. Non, mais c'est littéraire.
Mais bien sûr, c'est George Bernard Shaw. Alors, forcément, tout passe.
C'est pas de moi, je pense pas.
Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève, les amis. Morale de cette émission, globalement, méfiez-vous de vos proches.
Oui, Mathieu. Vous avez bien raison de me le rappeler. On n'est jamais trahi que par les siens, on a pu le vérifier. Alors, lequel de nos personnages victimes de trahison vous a le plus attristé aujourd'hui ? Vercingétorix ? Marie Stuart ou Donald Trump ?
Moi, clairement, le type dont le collègue a diffusé à une heure de grande écoute sur une radio nationale un extrait de son imitation bourrée de Besnéard.
Oui, il faut pas arrêter dans le ventre.
Là, ça, j'ai vraiment trouvé ça pas sympa. Heureusement, demain, Stéphane, ce sera un thème moins dangereux pour vous. Nous évoquerons ces personnages de l'histoire qui ont été la cible de rumeurs invraisemblables.
Demain, on réunit en effet trois personnages qui ont été victimes de rumeurs. Georges Pompidou, victime de rumeurs visant son épouse, puis l'industriel américain Henry Ford.
Et Sheila, Stéphane, dont les mauvaises langues ont dit que...
C'était un homme.
Oui, c'est faux, Stéphane, c'est faux, vous verrez demain, j'apporte des preuves en plateau.
Oui, on sait maintenant que c'est une femme. Alors, à demain, Mathieu, et à demain, chers auditeurs.
À demain, Stéphane.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.